Bonjour à tous. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre des psaumes. On a passé du temps ce matin. Déjà, dans le psaume 40, on va avancer de 50 psaumes. On va aller au psaume 90. Psaume 90, c'est le psaume de Moïse. Psaume 90 que nous lirons en entier des versets 1 à 17. Voici la parole de Dieu. Prière de Moïse, l'homme de Dieu. Seigneur, toi tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes soient nées et que tu aies donné le jour à la terre et au monde, depuis toujours et pour toujours, tu es Dieu. Tu fais retourner l'homme à la poussière et tu dis, êtres humains, retournez. Car 1000 ans sont à tes yeux, comme le jour d'hier quand ils passent et comme une veille de la nuit. Tu les emportes, ils sont comme un instant de sommeil qui au matin passe comme l'herbe. Elle fleurit au matin et elle passe, on la coupe le soir et elle se dessèche. Nous défaillons à cause de ta colère. Ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos fautes et à la lumière de ta face ce que nous dissimulons. Car tous nos jours déclinent à cause de ton courroux. Nous achevons nos années comme un murmure. La durée de nos jours s'élève à 70 ans, pour les plus vigoureux à 80 ans, et leur agitation n'est qu'oppression et mal, car cela passe vite, et nous nous envolons. Qui connaît la force de ta colère et le courroux qui te fait craindre? Enseigne-nous à bien compter nos jours, que nous conduisions notre cœur avec sagesse. Reviens, Seigneur, jusqu'à quand? Aie pitié de nous, tes serviteurs. Rassasie-nous dès le matin de ta fidélité. Nous crierons de joie durant tous nos jours. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as affligés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton action nous apparaisse, à nous tes serviteurs, et ta magnificence sur nos fils. Que la beauté du Seigneur, notre Dieu, soit sur nous, affermis pour nous l'œuvre de nos mains. Oui, affermis l'œuvre de nos mains. Jusqu'ici, la parole du Seigneur. Seigneur, sanctifie-nous par ta vérité. Ta parole est la vérité. Amen. Le temps passe si vite. On ne s'en rend pas compte lorsqu'on est enfant et que toute attente nous paraît longue. Et pourtant, le temps passe si vite. Il file à toute allure. Le psaume que nous lisons ce matin ne cesse de le redire. Le temps qui passe est le sujet central de ce psaume, le thème principal, avec une insistance assez marquée sur le caractère transitoire, éphémère de la vie humaine. C'est vrai, 70 ans ou 80 ans d'existence terrestre, ça paraît beaucoup aux yeux d'un enfant qui n'arrive pas à attendre la semaine prochaine, ou même lundi. Mais lorsqu'on y réfléchit, 70, 80, 90 ans, c'est si court. Le temps passe si vite. Comment vivre nos vies à la lumière du temps qui passe si vite? Devons-nous nous aussi dire, mangeons et buvons, car cueillons le jour et prenons du plaisir, car demain nous mourrons? Surtout pas. En tout cas, ce n'est pas l'enseignement du psalmiste dans ce psaume. Ce que Moïse, l'homme de Dieu, préconise consiste à prendre conscience de la fragilité de la vie humaine, du temps qui passe et de la mort qui vient. Son enseignement, sa préconisation, c'est que nous apprenions notre réflexion. Alors qu'allons-nous voir maintenant et demander à Dieu ce matin dans ce psaume? Eh bien, trois choses principalement. Premièrement, nous allons lui demander la sagesse divine qu'il nous faut pour vivre à la lumière de l'éternité. C'est les versets 1 à 12. La sagesse divine. Nous à bien compter nos jours, que nous conduisions notre cœur avec sagesse. C'est la toute première demande du psaume. Mais il ne faut pas s'y tromper. Tout ce qui précède les 11 premiers versets servent de préparation à cette première demande. Même si le cheminement de la pensée de Moïse pour arriver enfin à formuler cette première demande paraît au premier abord un petit peu long et un petit peu tortueux. On va essayer de décortiquer ensemble ce chemin de pensée qui l'amène à formuler cette première demande de sagesse pour vivre à la lumière de l'éternité. Le point de départ de la réflexion et de la prière de Moïse se situe dans la fidélité de Dieu. Au verset premier, vous lisez ainsi « Seigneur, toi, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. » Le mot traduit dans ma version, j'ai lu la Nouvelle Bible Seconde, par « refuge » signifie littéralement « demeure » en hébreu. Tu as été pour nous une demeure de génération en génération. La demeure, c'est le lieu où nous résidons. C'est notre chez-nous. Le peuple dont Moïse avait la charge était un peuple de voyageurs et d'étrangers sur la terre. Depuis l'époque d'Abraham, soit plus de 4 siècles, le peuple issu d'Abraham n'avait pas eu de chez-soi physique, local. Mais ce peuple, de génération en génération, depuis Abraham jusqu'à Moïse, avait bel et bien un refuge, une demeure, un chez-soi. Et ce n'était pas une terre, un lopin de terre, ça et là. Non, c'était le Dieu de l'Alliance, le Dieu qui avait conclu alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. C'était lui, leur refuge, leur demeure, leur chez-soi. Et Moïse, réfléchissant à ce qui a été par le temps passé, la deuxième partie de la Genèse, continue et remonte plus haut dans le temps. Qui est notre demeure et notre refuge, la demeure et le refuge et le chez-soi de ce peuple pour toutes les générations. Quel privilège et quel honneur! Mais en remontant aussi ainsi au récit des origines, Moïse se rappelle alors ce qui vient juste après la création du monde. Le Seigneur, certes, a donné naissance au monde, il a créé la vie humaine, mais il est aussi celui qui y met un terme. Faisant allusion à la bénédiction de Genèse 3,19, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes à la terre, puisque c'est d'elle que tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Eh bien, Moïse s'exclame maintenant au verset 3, « Tu fais retourner l'homme ?» à la poussière. Et tu dis, êtres humains, retournez. Et c'est pourquoi le temps passe si vite dans nos existences. Notre existence est en quelque sorte tendue vers sa fin, orientée vers la mort. Et ça va si vite. Nous allons, je vais pas faire une prophétie extraordinaire, nous allons tous mourir. Versets 4 à 6, « Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier quand ils passent et comme une veille de la nuit. Tu les emportes, ils sont comme un instant de sommeil qui au matin passe comme l'herbe. Elle fleurit au matin et elle passe, on la coupe le soir et elle se dessèche. La vie humaine est éphémère comme une fleur qui fane en une seule journée. » Alors, cela, nos amis non-croyants peuvent le dire. Alors je précise, ils ne le disent pas sous la forme d'une prière à Dieu, comme Moïse, et ne confessent pas que pour Dieu 1000 ans sont comme un seul jour. Mais il y a des tas de personnes non chrétiennes, et même non croyantes, on va dire complètement athées, qui reconnaissent la brièveté de la vie humaine et l'inéluctabilité de la mort. C'était déjà la sagesse des anciens stoïciens dans l'Antiquité, qu'un auteur comme Michel Onfray cherche à ressusciter de nos jours. Il nous dit ceci, il faut accepter la mort qui est dans l'ordre des choses et ne pas la craindre. Quand on n'est pas mort, on n'est pas mort, donc ça sert à rien de la craindre. Quand on est mort, on n'existe plus, donc ça sert à rien de la craindre. C'est ce que nous disent les sages. Pourquoi, dans nos existences concrètes, la mort continue à être aussi choquante et aussi douloureuse? Ce n'est pas ainsi que ça devrait être. Et c'est pourquoi vous voyez Jésus, même avant de ressusciter son ami, qui pleure devant le tombeau d'un mort, parce que la mort ne devrait pas exister. Mais voici, nous avons le plus besoin. Mais qu'est-ce que la sagesse ? Au moment où Moïse rédige cette prière, le terme n'est pas encore bien défini bibliquement. Ce n'est que plus tard que les livres bibliques de la sagesse, comme celui des Proverbes, de Job ou de l'Ecclésiaste, seront écrits. Ce n'est que plus tard, bibliquement, qu'il sera énoncé que le commencement de la sagesse, c'est de révérer le Seigneur de l'Alliance. Mais bon, le fond de l'idée de sagesse est bien connu. La sagesse, c'est vivre la vie avec la bonne perspective et en faisant les bons choix. Et Moïse demande que Dieu nous apprenne à compter nos jours, car ils sont courts, le temps file si vite. Et il demande à Dieu de nous aider à faire de notre existence terrestre tout entière une méditation sur l'immortalité, à ce que notre existence soit tournée vers la pensée de la vie éternelle qui vient après la mort, de sorte que notre vie présente soit une préparation à la vie éternelle, parce que la vie présente terrestre est tellement courte. Alors la question qui se pose, c'est est-ce que nous vivons ainsi nos besoins par des prières et des supplications, bien compter nos jours et entraîner notre cœur vers la sagesse, commence par avoir une humble vie de prière devant Dieu, ou comme certains le font avec leurs enfants, nous demandons à Dieu pardon, merci et s'il te plaît aussi souvent qu'il le faut. Et nous en avons toujours besoin. Est-ce que nous vivons ainsi ? Pas toujours, malheureusement. Mais nous pouvons maintenant, ce matin, demander cela à notre Père Céleste, lui demander de transformer nos cœurs. Nous pouvons prier pour que par son Esprit qui vit en nous, nous commencions à prier plus, à vivre plus consciemment de sa vie, avoir plus conscience de la brièveté de notre vie, avoir plus conscience à chaque instant que notre vie présente jusqu'à la fin de nos jours se vit ou doit se vivre en tout cas devant notre Dieu. Et nous ferons cela plus facilement si nous prenons conscience de ce qu'est effectivement l'existence humaine, une vie brève remplie d'afflictions. Et tous les divertissements que la société nous propose en permanence remplissent notre tête et nous font oublier cette vérité fondamentale. La vie est courte et remplie de malheurs. Verset 10, l'agitation de nos jours n'est qu'oppression et mal, car cela passe vite, et nous nous envolons. Et le verset 15 parle même des nombreux jours où Dieu nous a affligés. Il ne faut pas chercher à le nier, il ne faut pas enfouir sa vie sous des divertissements qui nous occultent cette vérité. La vie est courte, brève, et elle est remplie de souffrances qui peut-être ont pour rôle de nous secouer, de nous réveiller pour que nous prenions conscience de la futilité de la vie que nous choisissons de vivre selon la vaine manière de vivre héritée de nos pères. Notre monde nous invite à minimiser les tragédies de nos vies, à assumer les choses, à simplement vivre avec une pensée positive, alors que le monde n'a rien à nous donner comme espérance. Mais la perspective biblique ici, c'est justement de prendre de la perspective et pas juste de vivre le nez dans le guidon. C'est de se rendre compte que notre existence est insérée dans l'éternité. Accepter de voir l'existence humaine comme quelque chose de bref, mais aussi de difficile et parfois de pénible, qui peut être par moments rempli de tourments à cause de l'irruption du péché, qui fait peser sur le genre humain la colère de Dieu, eh bien c'est aussi cela la sagesse, c'est voir la vie telle qu'elle est. C'est pas un chemin parsemé de roses. Alors, même si j'ai passé le plus longtemps de la prédication de ce matin sur cet aspect-là, parce que le psaume lui-même, il passe 12 versets, eh bien, le psaume, vous le voyez, ne s'arrête pas à cette première demande de sagesse qui, à cause de la dureté de la vie humaine, pourrait nous conduire au désespoir si on s'en arrêtait là. Puisque la personne sage est celle qui sait que le monde ne va pas bien parce que l'homme et parce qu'elle-même a péché contre Dieu, Puisque la personne sage est celle qui sait que nos afflictions sont la conséquence du poids de la colère de Dieu contre le péché du genre humain, alors le remède à ce monde qui ne tourne pas rond et à nos vies qui vont mal, eh bien, il ne peut être qu'à un seul endroit. Il ne peut être qu'en Dieu lui-même. Il faut que Dieu revienne. C'est-à-dire qu'il nous redevienne favorable, comme lorsque l'homme et la femme vivaient en communion avec lui dans le jardin d'Éden. Et c'est pourquoi, après lui avoir demandé la sagesse divine qu'il nous faut pour vivre à la lumière de l'éternité, pour avoir un bon regard sur le monde, eh bien Moïse demande une deuxième chose que nous voulons demander avec lui. Il demande donc au Seigneur aussi la miséricorde divine qu'il nous faut pour vivre réjouis. Parce que si on n'a que le constat d'échec de l'humanité, on vivra dans le désespoir. Mais si, en plus de la sagesse pour bien voir le monde, nous recevons aussi la miséricorde divine, alors nous pourrons vivre heureux même dans un monde rempli d'affliction et même dans une vie remplie d'affliction. Et c'est pourquoi Moïse formule cette deuxième demande au verset 13. « Reviens Seigneur, jusqu'à quand ? Aie pitié de nous, tes serviteurs. » Alors, ça ne se voit pas très bien dans nos traductions, mais on a exactement le même verbe hébreu qui est utilisé ici, au verset 13, qu'au verset 3. Au verset 3, c'est Dieu qui dit à l'homme « Reviens dans la poussière !» Et au verset 13, c'est Moïse qui, et nous à sa suite, qui avons la hardiesse de plaider avec Dieu pour dire « Reviens vers nous, Seigneur !» Vous voyez un peu le jeu de langage. Dieu nous dit « Retournez à la poussière !» Et nous disons « Non, c'est toi, Seigneur, qui reviens vers nous !» Un peu osé. Ce n'est pas la première fois, remarquez, dans notre psaume. « Reviens, retourne-toi, retourne à nous !» Il a du toupet, ce Moïse. Il demande à Dieu de revenir de sa colère. Il cherche à l'apaiser, comme si Dieu n'avait pas raison. Mais qui est-il pour vouloir cela ? Qui peut calmer la colère de Dieu, sachant que cette colère n'est ni capricieuse, ni injuste, mais au contraire, infiniment juste et méritée de notre part ? Et voyez comment Moïse continue en Exode 32, verset 13. « Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs auxquels tu as dit en faisant un serment par toi-même, « Je multiplierai votre descendance comme les étoiles du ciel, je donnerai à votre descendance tout ce pays dont j'ai parlé, et ce sera son patrimoine pour toujours. » Qu'est-ce qu'il dit en Exode 32, 13 ? Moïse dit ici à Dieu, « Seigneur, tu as toujours été notre demeure, notre refuge, notre chez-soi, chez nous, de génération en génération, alors continue à l'être !» Et vous savez quoi ? Lorsque Moïse a demandé ça en Exode 32, eh bien ça a marché. Exode 32, verset 14. « Alors le Seigneur renonça au mal qu'il avait parlé de faire à son peuple. » Il revient à la demande de Moïse. Alors que fait Moïse dans notre psaume 90 ? Il emploie la même direction, il prend la même direction. Il demande donc non seulement la sagesse qui vient de Dieu, mais aussi la miséricorde qui vient de Dieu. Oui, le péché nous sépare de Dieu et nous attire son juste jugement. Et c'est pourquoi notre vie est si courte et remplie d'affliction. Mais Seigneur, reviens vers nous et aie pitié de nous. Permets que nous refassions partie de ta vie et permets que nous nous réjouissions de toi parce que tu es celui qui nous sauve, versets 14 et 15. Rassasie-nous dès le matin de ta fidélité. Nous crierons de joie durant tous nos jours. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as affligés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Ce que demande ici Moïse, c'est la prolongation de notre vie. Certes, nous ne méritons pas de vivre car nous sommes des pécheurs et nos péchés nous attirent sa colère et sa colère raccourcit nos jours. Mais Seigneur, reviens vers nous, fais-nous miséricorde, redeviens-nous favorables et nous vivrons longtemps. Et d'ailleurs, remarquez que Moïse, à titre personnel, a été exaucé. Il a largement dépassé la barre des 80 ans dont il est question dans le passage, puisque nous lisons en Deutéronome 32, verset 7 ceci, « Moïse avait 120 ans lorsqu'il mourut. Son œil ne s'était pas affaibli et sa vigueur n'avait pas disparu. » Moïse, par sa prière, nous apprend donc à demander premièrement la sagesse divine qu'il nous faut pour vivre à la lumière de l'éternité et deuxièmement la miséricorde divine qu'il nous faut pour vivre réjouis dans cette vie malgré les difficultés et la brièveté de la vie. Cette demande de miséricorde divine débouche sur une dernière demande de bénédiction divine sur laquelle nous nous arrêterons. C'est la troisième chose qu'il nous faut apprendre à demander au Seigneur fidèlement dans la prière, à savoir la bénédiction divine sur l'œuvre de nos mains. Ce sont les versets 16 et 17 qui concluent le psaume. Versets 16 et 17, « Que ton action nous apparaisse à nous tes serviteurs et ta magnificence sur nos fils. Que la beauté du Seigneur notre Dieu soit sur nous. Affermis pour nous l'œuvre de nos mains. » Oui, affermis l'œuvre de nos mains. Si Dieu daigne revenir vers nous, s'il se déclare pour nous malgré toutes nos fautes, on l'a chanté tout à l'heure, qui sera contre nous? Personne, bien sûr. Cette prière pourrait servir d'introduction à toutes nos journées. Que ton action nous apparaisse à nous tes serviteurs et ta magnificence sur nos enfants. Là encore, est-ce que nous prions ainsi au début de nos journées? Est-ce que nous demandons à voir le Seigneur dans notre vie? Est-ce que nous demandons que nos enfants voient la magnificence, la beauté, la main du Seigneur dans leur vie à eux? Pas toujours. Mais c'est assurément ce que nous devrions apprendre à faire, le psaume 90 bien en main. Alors, comment conclure? Eh bien, en notant que Moïse, qui nous offre ici un très beau modèle de prière pour demander à Dieu et la sagesse divine, et la miséricorde divine, et la bénédiction divine, eh bien, en notant que Moïse, l'homme de Dieu n'était lui-même qu'un serviteur. Hébreux 3, verset 5. Vienne de sa colère. De même, celui qui est plus grand que Moïse, qui n'est pas serviteur mais fils, Jésus notre Seigneur, lui aussi plaide pour nous chaque jour auprès du Père, tous les jours de notre vie, afin que nous ayons un plein accès au trône de la grâce. Mais lui le fait en tant que fils, et il plaide sur le fondement du sacrifice offert pour nous une fois pour toutes. Moïse était l'image et l'ombre de celui qui devait venir, celui qui devait vivre la vie que nous devrions automatiquement. Mais notre espérance réside désormais dans le fait que la vie éternelle nous est donnée. Car la vie éternelle, c'est de connaître Dieu le Père et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ, par la foi que suscite en nous son Saint-Esprit. Et voici la plus grande sagesse, celle de Dieu lui-même, qui surpasse le fait de non seulement savoir que la vie est brève et que nous devrions vivre notre vie devant Dieu. 1 Corinthiens 1, versets 28 à 31, « Dieu a choisi ce qui est vil dans le monde, ce qu'on méprise, ce qui n'est pas, pour réduire à rien ce qui est, de sorte que personne ne puisse faire le fier devant Dieu. Or, c'est grâce à lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui a été fait pour nous, sagesse venant de Dieu, mais aussi justice, consécration et rédemption, afin, comme il est écrit, que le fier mette sa fierté dans le Seigneur. » C'est cela, la sagesse, aujourd'hui, pour nous. C'est nous jeter dans les bras de Jésus-Christ, nous confier en lui, parce qu'il est notre justice, notre sanctification, notre salut, notre sagesse aussi. Et c'est ainsi que demander, prier avec Moïse, à bien compter nos jours pour entraîner notre cœur à la sagesse, revient finalement à demander que le sujet de notre méditation sur la brièveté de la vie et sur l'immortalité que nous espérons, que nous demandons, eh bien, ça revient finalement à demander à Dieu que Jésus-Christ remplisse notre vie. Car c'est grâce à lui que vous êtes en Jésus-Christ qui a été fait pour nous notre sagesse venant de Dieu. Et ainsi, confiant et reconnaissant dans le Seigneur Jésus-Christ, nous pouvons nous attacher désormais à accomplir les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, afin que nous les pratiquions en disant à notre tour, au début de toutes nos journées, lorsque nous y pensons, affermis pour nous l'œuvre de nos mains. Oui, affermis l'œuvre de nos mains. Je vous invite à conclure par la prière. Notre Dieu, notre Père et notre Sauveur, nous te demandons ce matin, pour nous ces trois choses. La sagesse pour apprendre à regarder la vie telle qu'elle est, en sachant combien elle est brève et combien le bonheur auquel nous aspirons tous, eh bien, nous ne le trouverons pas dans les circonstances de la vie. Nous te demandons, Seigneur, de nous donner cette perspective, ce grand angle plus qui nous permet de lever le nez de nos pieds et de regarder au loin et de nous rendre compte que même si dans les circonstances présentes ça peut être difficile, eh bien tu as quelque chose de plus et de mieux pour nous. Parce que ton projet c'est de nous conformer à l'image de Jésus-Christ que tu as fait pour nous. Sagesse. Nous te prions que nous nous consacrions à ressembler à lui. Et nous te remercions parce qu'un jour nous le verrons quand il apparaîtra. Et nous serons rendus semblables à lui lorsque nous le verrons tel qu'il est. Nous te demandons, Seigneur, que tu nous donnes ce sentiment chaque jour que ta miséricorde est pour nous, les pécheurs que nous sommes, les pauvres pécheurs que nous sommes. Nous te prions, Seigneur, que cela remplisse notre vie de paix et de joie, et qu'ainsi, même au milieu des difficultés, en regardant à toi et en nous souvenant de ton salut accompli en Jésus-Christ, nous puissions vivre cette vie devant toi comme tu le demandes, avec sagesse devant du fait de ta miséricorde. Enfin, Seigneur, nous te demandons la bénédiction sur nos vies. Nous te prions que ces choses que tu as préparées d'avance pour que nous les pratiquions, eh bien, nous le fassions en te glorifiant, en regardant à toi, en faisant toutes choses, en t'aimant et en faisant ce que tu nous demandes. Nous te prions, Seigneur, pour que nous ayons ce réflexe qui n'est pas ancré en nous pour la plupart, pour que ça devienne un réflexe dans nos vies, de nous tourner vers toi et te demander que nos journées soient à ta gloire. Toutes ces choses, nous te les avons demandées au nom de ton Fils Jésus-Christ et par son Saint-Esprit. Amen.